Seigneur, nous te présentons notre monde qui a bien besoin de ressusciter, d'être remis debout. Apprends-nous à considérer tout être humain comme un frère ou une sœur. Apprends-nous à renoncer un peu à nous-mêmes pour aller partager avec d'autres la liberté que tu apportes. Permets-nous d'être auprès des autres des témoins de la bonne nouvelle. Et l'espérance qui en jaillit, invite-nous à changer ce monde que tu nous confies. La grâce et la paix soient sur chacun de vous. Je vous invite à vous lever. Cette expression biblique de louange, le fidèle pousse comme un palmier, il s'étend comme un cèdre du Liban, il est un arbre planté dans la cour du temple. Il s'épanouit chez le Seigneur notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève et plein de vie. La preuve vivante que le Seigneur est juste et sans détour, lui, mon rocher. Frères et sœurs, bienvenue dans ce temps favorable des débuts timides de notre reprise. Et néanmoins, tant d'écoute, de louanges, de prières, de silence et de partage.
De toutes mes forces, celles que tu m'as données, je t'ai cherché, désirant voir ce que j'ai cru. Et j'ai lutté et j'ai souffert. Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir, accorde-moi de n'être jamais là de te chercher. Qu'avec passion sans cesse, je cherche ton visage. Toi, qui m'as donné de te trouver, donne-moi le courage de te chercher et d'espérer te trouver toujours davantage. Écoutons maintenant une expression du pardon dans le livre du Deutéronome. Quand tu serais banni aux extrémités du ciel, le Seigneur, ton Dieu, te rassemblera de là. Il te prendra de là.
Écoutons l'expression de la volonté de Dieu avec un des textes du jour qui parle sur un mode antique qu'il s'agit d'adapter de l'universalité de l'appel de Dieu. Texte d'Isaïe, chapitre 56, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférables à des fils et à des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples.
Prions avec encore un des textes du jour qui parle de notre nécessaire humilité face à Dieu et à sa parole. Avec les Romains, la lettre aux Romains 11, 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, tous ensemble, oui, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et la lecture du jour, Matthieu 16. Les pharisiens et les sadducéens l'abordèrent et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit : Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Puis, il les laissa et s'en alla.
Comme vous l'avez entendu, Jésus a laissé en plan les pharisiens et les sadducéens qui ont tenté de le mettre à l'épreuve. Mais c'est peu dire que sa réponse, à savoir « vous n'aurez que le signe de Jonas », a aussi laissé en plan les commentateurs depuis des millénaires. Alors, abordons de plein fouet cette question et égrenons nos réponses. Avant d'aller essayer de rejoindre Jésus, qui est déjà parti loin, après nous avoir un peu laissé en plan. Pharisiens et sadducéens, deux groupes juifs de cette époque, et aussi deux mouvements antagonistes, mais qui, selon les évangiles, parfois se coalisent pour mettre Jésus à l'épreuve. Alors, il est nécessaire de présenter quelques informations cadres et rapides sur ces deux mouvements. Les Sadducéens représentent le temple de Jérusalem. C'est l'aristocratie dite sacerdotale, c'est-à-dire les prêtres et les grands prêtres, celle qui gère le temple, les rites, les pèlerinages, les impôts pour le temple. Ce sont les Sadducéens, les tenants de la loi dite écrite, c'est-à-dire la loi des tables de la loi. D'un point de vue théologique, ils sont, on pourrait les appeler des littéralistes. Ils sont proches de la lettre du texte et ils rejettent donc tout ce qu'ils considèrent comme étant extra-biblique, à savoir, entre autres, Les Sadducéens rejettent la résurrection des morts. En termes plus généraux, ils rejettent la vie après la mort. Et c'est vrai qu'on en parle peu dans la Bible hébraïque. Et ils rejettent aussi, par exemple, l'existence des anges. Ça, c'est les Sadducéens. Les pharisiens, eux, prétendent se référer à la loi dite orale. Celle supposée directement transmise aux oreilles du peuple par la bouche de Moïse, transmise de génération en génération, et qu'il s'agit d'interpréter de génération en génération. Et ça, les Sadducéens considèrent que c'est extra-biblique et que ce n'est pas à en prendre en compte. Donc, ça vous explique pourquoi ils sont antagonistes. On pourrait dire que les Sadducéens sont les tenants d'une orthodoxie. Ils appliquent littéralement ce qui est écrit et ne considèrent pas ce qui n'est pas écrit. Et on pourrait dire aussi que les pharisiens interprètent et adaptent la législation écrite. Jésus est donc, vous l'avez remarqué, en tant qu'interprète conscient de la loi. Vous savez, c'est quand même Jésus qui dit « Il vous a été dit et moi je vous dis ». Et d'ailleurs, c'est une de ces phrases clés de Jésus, et je vais égrener dans la prédication quelques phrases clés de Jésus très importantes à retenir pour comprendre d'une certaine manière la théologie de Jésus. Il vous a été dit et moi je vous dis. Celui qui dit ça est donc nettement influencé par les pharisiens. Il est en quelque sorte Jésus un pharisien exceptionnel. Mais quand les pharisiens officiels ont tendance à resserrer la loi, lui, on va dire qu'il la détend. Il dit aussi, et c'est une autre phrase clé pour Jésus, le sabbat est fait pour l'humain et non l'humain pour le sabbat. Ce qui est assez révolutionnaire de dire ça. Deuxième phrase clé. Les Sadducéens ont totalement disparu après la dernière destruction du temple de Jérusalem par les Romains en l'an 70 de notre ère. Mais la pensée des pharisiens, elle, s'est plus ou moins directement prolongée dans la création du judaïsme rabbinique et synagogal et dans la culture talmudique, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Et le pharisaïsme, d'une certaine manière, a influencé le christianisme par l'intermédiaire de Paul, l'apôtre, qui était aussi un pharisien. Donc, des représentants de ces deux mouvements qui ne peuvent pas s'encadrer, si je peux me permettre, s'adressent donc à Jésus pour le faire tomber. Fais-nous voir un signe du ciel. Mais ce qu'ils veulent, en fait, ces gens-là, c'est, ce n'est pas un signe, c'est une démonstration, c'est une preuve. Car des signes, à savoir des actes, non pas qui viennent du ciel, mais qui désignent d'une certaine manière le ciel, des signes qui signifient, qui indiquent Dieu, il y en a déjà eu de nombreux dans le parcours de Jésus. D'après l'évangile de Matthieu, là nous sommes au chapitre 16. Et le dernier en date, juste avant, c'était quand Jésus avait nourri 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, précise l'évangile. Ce que ces personnes qui veulent faire tomber Jésus prétendent vouloir, c'est une preuve, quelque chose qui n'est même plus à déchiffrer d'ailleurs, même plus à interpréter, puisqu'elle s'imposerait comme une météorite qui tomberait du ciel. Cela s'appelle une injonction perverse. Le demandeur sait pertinemment que l'accusé ne pourra pas répondre, puisque Jésus n'a jamais prétendu détenir la toute-puissance. Mais ce demandeur tente d'enfermer Jésus dans une identité que Jésus n'a pas, et ce pour le faire vaciller. C'est un combat, comme on lit dans ce texte, un combat entre la perversité, d'une part, et la subtilité, d'autre part. La subtilité est convoqué à devenir de la puissance, et notre texte le montre, la subtilité s'y refuse. Elle se refuse à la perversité. Ce sont des aveugles qui ne savent pas qu'ils sont aveugles et qui demandent à l'accusé non pas de voir, mais de faire voir aux autres. Mais s'ils avaient pu ne serait-ce qu'entrouvrir leurs yeux bornés, ils auraient vu, ils auraient senti les signes qui parsèment la route de Jésus, parole, acte, présence, tout est déjà là. Mais eux ne sont pas là pour voir, ils sont là pour piéger et pour accuser. Et c'est encore une prémisse de tous les procès iniques qui parsèment l'histoire et aussi l'actualité. Je ne vous fais pas la liste de l'Iran, la Russie et ce, partout dans le monde. Jésus n'est pas encore arrêté à ce stade-là de la narration de l'Évangile. Donc il est libre. Donc il n'est pas obligé de répondre. Il aurait pu partir d'emblée, mais il a quand même répondu. Et c'est intéressant d'avoir le texte écrit sous les yeux, entre parenthèses, et il y a une petite erreur de numérotation, ce n'est pas les numéros de versets indiqués, mais c'est les versets 1 à 4. Mais bon, vous aurez rectifié de vous-même, bien sûr. Alors, pour répondre, il a légèrement fait varier le libellé de la demande des accusateurs. Eux demandaient la production d'un signe du ciel. Et lui répond par cette phrase: vous ne savez pas discerner les signes, au pluriel, non pas du ciel, mais des temps. Le temps ici, ou les temps au pluriel, c'est encore une fois, en grec, ce qu'on appelle le kairos, c'est-à-dire le temps favorable. Ça désigne explicitement un temps où la volonté humaine et la volonté divine se conjuguent, et un temps qu'il s'agit de saisir dans sa main. Jésus déjà leur a répondu en leur ayant administré une petite leçon philosophique. Pas de signe du ciel, pas un signe du ciel, mais discerner les signes des temps favorables. Et les signes, donc, il y en a plusieurs, beaucoup, une multitude. Il leur dit, en fait, le fait que vous ne sachiez non seulement pas les voir, ces signes, mais ne même pas voir qu'ils sont pluriels, déjà vous désigne comme ces aveugles qui prétendent conduire d'autres aveugles. Encore une phrase clé de Jésus. Mais surtout, ce n'est pas du ciel que va tomber votre signe, puisque tous les signes, ces moments favorables, sont là, sous votre nez. Et que vous n'en tenez aucun compte, car vous n'êtes pas capable de voir le bonheur qui se propose et de le saisir. Jésus leur dit, vous êtes enfermés dans vos dogmes et vous êtes cloisonnés par votre haine. Première partie de la réponse de Jésus, avant qu'il les plante là, puisqu'il n'est pas arrêté, puisqu'il est encore libre. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé, ça c'est un message personnel, que personne ne devrait se sentir obligé de répondre à une question sous le prétexte, assez faible finalement, qu'on la lui pose. Pensez-y. Vous vivrez mieux. Vous n'imaginez pas le nombre de questions qui vous entourent, invisibles et permanentes. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de répondre. Ensuite, Jésus, pour les plus anciens d'entre nous, tel l'inspecteur Colombo, Jésus revient à la charge. Et donc leur dit, à cette génération, il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Débrouillez-vous, puisque chacun dans votre genre, pharisiens, sadducéens, vous connaissez ce célèbre prophète, au revoir. Et c'est à ce moment-là de ma prédication que je suis censé interpréter ce que Jésus a voulu dire. Alors d'abord, je pense que sa réponse, telle qu'il l'a administrée, sans chercher à continuer la conversation pervertie, est déjà la clé de ce texte, et que cette clé n'est pas dans le fait de chercher ce qu'il a voulu dire, mais bien de voir un moyen de se sortir d'un nœud pervers, d'une conversation perverse. Cependant, on peut chercher, puisque c'est agréable de chercher. De chercher au-delà de ce que les commentateurs premier degré, car il y en a, adorent redécouvrir à chaque fois, je résume. Oh, Jonas a été enfermé 3 jours dans un poisson.
Et au bout de 3 jours, il a été recraché, revomi, dit le texte. Comme Jésus. J'ai trouvé. Mais non, il n'est nullement dit dans les évangiles que Jésus aurait passé 3 jours à se repentir, comme l'a fait Jonas dans son magnifique psaume de repentance. Lisez le livre 4, le livre de Jonas, 4 chapitres très étonnants. Non plus, Jésus n'a pas décidé de se noyer, comme l'a fait Jonas au début. Bref, il n'y a aucun rapport avec les deux protagonistes, entre les deux protagonistes. Alors, il vaut mieux chercher dans la narration. Le premier point est que le livre de Jonas, Jonas qui signifie colombe, entre parenthèses, encore une colombe, que le livre de Jonas témoigne d'un moment universaliste de la foi juive. Le livre de Jonas commence par la parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle. Ninive, grande ville, c'est la grande ville des Assyriens. Et les Assyriens sont les pires ennemis des Hébreux. Et ensuite, dans le livre, on va constater que Dieu aura pitié de ces gens-là, ce qui énervera Jonas. Je ne pèse pas mes mots, hein. C'est indiqué clairement dans la Bible. Hein. Jonas est très fâché. Ça dit donc aux Sadducéens et aux pharisiens qui sont cloisonnés dans leur nationalisme, lisez vos textes, eh bien vos textes témoignent de la volonté de Dieu de bénir au-delà de vos frontières symboliques. Et de fait, le mouvement chrétien sera le prolongement de cette vision de la bonne nouvelle sans frontières. Mais ce qui frappe le lecteur de Jonas, c'est le caractère récalcitrant de ce prophète. Là aussi, abondance de commentaires. Dieu lui parle, dès le début, ce que je vous ai lu, et Jonas, il fuit immédiatement. Et finalement, au bout de certaines péripéties, comme celle du poisson, et finalement, il obtempère. Il va annoncer les malheurs qui attendent la ville de Ninive, et que fait Dieu ? Il pardonne. Citation du livre de Jonas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire. Il ne le fit pas. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Jonas, une seconde fois, à ce moment-là, veut mourir. La première fois, c'était en se jetant à l'eau. Et là, il dit carrément « Je veux mourir ». Et il veut mourir car il est dépité, déçu par son Dieu. En face de ce Dieu que, décidément, il ne comprend pas. Et Dieu, dans la conclusion du livre, la conclusion radicale, ça finit comme ça, une conclusion tout à fait empreinte d'ironie, et il est écrit à ce moment-là, Dieu parle, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand nombre. » Fin. Merveilleux texte. Ce que Jésus tente de faire comprendre à ses accusateurs, mais aussi à tous ceux qui ont écouté cette controverse, c'est que Jonas, tout prophète qu'il soit, est un homme assez vain, qui s'obstine à ne pas comprendre ce que Dieu pourtant lui demande. Alors certes, il s'est repenti, et sa repentance magnifique, c'est un très très beau psaume. Mais à la fin du texte, on voit qu'il a rechuté. En fait, Jonas ne voit rien. Comme les accusateurs de Jésus, il ne voit pas l'universalité bienveillante de la volonté de Dieu, à laquelle Jésus, tel qu'il est présenté dans les évangiles, croit profondément. Et croyez-moi, le commentaire que je vous fais aujourd'hui dans l'intimité de cette timide reprise, commentaire que je vous fais aujourd'hui, je ne l'ai lu nulle part. J'ai juste essayé de comprendre ce fameux signe de Jonas. En conclusion de cette prédication de cette nouvelle année que Dieu fait sous le soleil, et au milieu du fatras du monde, de sa douleur et aussi de la conduction perverse de ceux qui alimentent le désordre à leur profit, un profit généralement pécuniaire et obscène, qui un jour d'ailleurs sera pleinement dévoilé au grand jour et rendu à son caractère vain et ridicule. Eh bien aujourd'hui, au milieu de tout ça, je nous invite à cesser déjà de vouloir un signe du ciel. Mais plutôt, je vous invite à essayer de discerner les signes des temps. Et malgré tout, si vous voulez encore vraiment un signe, lisez Jonas. Et plus généralement, lisez votre Bible, dans laquelle vous serez à même de dénicher le chemin des temps favorables. Amen.
Vous lever et nous confessons notre foi ensemble, qui est sur la feuille de culte. Je crois en un seul Dieu, le Créateur de toutes choses. Je crois en une vie qui dépasse l'espace et le temps, qui est plus que ce que les yeux peuvent voir, ou même ce qu'un cœur peut sentir. Je crois dans un amour infini, sans limites ni conditions. Un amour capable de traverser tous les obstacles et de transformer la peine en joie. Je sais qu'il y a une force puissante à l'œuvre dans ma vie. Et je me sens protégée par elle chaque jour. Je suis reconnaissante pour le don inestimable du pardon offert à chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas toujours dignes de cette grâce divine, car ce pardon se révèle encore plus grand que nos erreurs passées ou présentes. J'ai foi en la bonté des gens autour de moi, j'y trouve mon inspiration quotidienne pour faire preuve non seulement de gentillesse, mais aussi de courage face aux difficultés rencontrées sur mon chemin. Je crois en la puissance de Dieu pour illuminer mes jours comme un soleil rayonnant remplit chaque pièce obscure qu'il traverse. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs.
Thank you.